Une guerre perdue et oubliée. 50e anniversaire de la guerre civile espagnole. 5 émissions de Carlos Semprin Mora et Philippe Gagné-Raymond. Musique originale de Francisco Semprin. Réalisation Maurice Audran.
Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco.
Aujourd'hui, troisième émission, les interventions étrangères pendant la guerre civile. S'il est important que les nazis allemands et les fascistes italiens concédèrent aux franquistes bien connus, les interventions étrangères dans l'autre camp le sont moins, ou en tout cas plus controversées. Bien sûr, on a beaucoup écrit et dit sur l'héroïsme des brigades internationales, mais beaucoup moins sur le rôle de l'internationale communiste. Staline lui-même suivit les choses de très près. En fait, le pouvoir souvent occulte des agents de l'internationale, toutes nationalités confondues, fut considérable. Et leur répression contre le POUM et les secteurs anarchistes les plus révolutionnaires le fut tout autant.
Léon Blum, président du Conseil du gouvernement de Front Populaire, s'explique sur sa révision déchirante. La France n'interviendra pas en Espagne aux côtés des Républicains. La France cessera de livrer des armes à la République. Blum s'adresse aux militants socialistes au cours d'un meeting historique à Luna Park en septembre 1936.
Je sais que le maintien du gouvernement légal de la République espagnole garantirait à la France, en cas de complications européennes, la sûreté de sa frontière pyrénéenne, la sûreté de ses communications avec l'Afrique du Nord, et sans que je me permette aucune prévision sur un avenir que nul ne connaît exactement, je peux pour le moins dire que du côté du gouvernement militaire, il nous est impossible de prévoir, au contraire maintenant, avec certitude, quelles seraient ou les obligations ou les ambitions de ses chefs. Je dis que d'un côté, il y a pour nous une sécurité, et de l'autre côté, pour le moins, qu'il subsiste un risque. Quiconque se place au point de vue de l'intérêt immédiat du pays doit sentir cela, et je le sens comme chacun de vous. Et si quelque chose aujourd'hui doit être aux yeux de tous un affreux scandale, c'est que cet intérêt évident de la France ait été à tel point méconnu par une presse partiale jusqu'au crime et jusqu'à la trahison. Seul le gouvernement légal aurait le droit de recevoir de l'étranger des livraisons d'armes, alors que ce droit devrait être refusé sévèrement au chef de la rébellion militaire. Oui. Demandez-vous cela. Demandez-vous, une fois la concurrence des armements installée, car elle est fatale dans cette hypothèse, jamais cela ne restera unilatéral. Demandez-vous, une fois la concurrence des armements installée sur le sol espagnol, quelles peuvent être les conséquences pour l'Europe entière? cela, dans la situation d'aujourd'hui. Et alors, si ses pensées sont maintenant suffisamment claires et suffisamment présentes devant votre esprit, ne vous étonnez pas trop, mes amis. Si le gouvernement, je dis le gouvernement, mais je pourrais aussi bien parler à la première personne, car j'assume toutes ses responsabilités au nom. Au nom du gouvernement que je préside, je n'accepte pas d'acception de personne ou d'acception de parti. Si nous avions mal agi, je serais aussi coupable en ayant laissé faire qu'en ayant fait moi-même. Et je n'accepte pas, pour ma part, ces distinctions, même amicales, même ménagères de ma personne. Alors ne vous étonnez pas. Si nous en sommes venus à cette idée, la solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité. Il ne s'agit pas de ce mot « neutralité » qui n'a rien à faire en l'espèce, mais s'engagerait à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engagerait à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre.
Voici un document unique. Le général Franco rend hommage à la France en français.
Les Espagnols qui ont tant de raisons pour connaître le profond sentiment spirituel de la nation française savent distinguer en elle ce qui est permanent de ce qui est transitoire. C'est dans ces moments de danger que l'on apprécie le plus les amitiés et c'est pour cela que tous nos sentiments de reconnaissance sont pour ces Français qui, malgré les circonstances, continuent à nous faire preuve de leur amitié et de leur cordialité. Pour eux, pour la France entière et pour le monde qui doit tant à la culture française, je voudrais que la sanglante tragédie espagnole soit un exemple qui fasse voir où se trouvent les vrais ennemis de cette civilisation qu'à s'y maintenir à travers les siècles le génie latin.
Villebaldo Solano, ancien secrétaire général du PUM, parti ouvrier d'unification marxiste.
Ces combattants, ils sont à Sigüenza, ils sont dans la Moncloa même, à ce moment-là, ils étaient au port de Madrid, ils se battaient. Alors bon, les socialistes, ça, c'est un fait historique qu'on a expliqué plusieurs fois dans pas mal de livres. Les dirigeants socialistes Alvar est allé trouver nos camarades pour dire, voilà, la question est très claire, nous sommes pour, tout le monde est pour, le PUM doit être dans la Junta de Défense de Madrid. Mais l'ambassadeur soviétique a dit que non. Donc l'ambassadeur soviétique avait fait une démarche pour empêcher que le PUM soit à la Junta de Défense de Madrid. En même temps, on avait fait un grand meeting à Madrid, une manifestation de jeunesse du PUM, justement, dont j'ai participé à l'époque. Et le lendemain, il y a une campagne a commencé contre nous, au moment que beaucoup de camarades à nous étaient morts dans la lutte de la cathédrale de Sigüenza, qui était un des moments très important de lutte dans le nord de Madrid. Donc, ils ont commencé une offensive à Madrid, ils ont réussi à nous arracher la radio, puis ils ont pris par assaut un de nos locaux, et ils ont commencé une campagne brutale, tandis qu'en Catalogne, ils ne faisaient presque rien, jusqu'à tel point que nos militants à Barcelone, ils disaient, c'était terrible, mais c'est un fait vrai, non ? Iglesias, il doit se rappeler, que nos militants en Catalogne disent « Ah, oui, ça se passe à Madrid parce que vous n'êtes pas assez puissant, mais en Catalogne, ça ne se passera pas. Non, ici, nous sommes assez... » Évidemment, le problème était très politique, très important, etc. Ils ont commencé par Madrid parce qu'à Madrid, le PUM était plus faible. Et puis, on s'est attaqué à nous en Catalogne. Et finalement, jusqu'au moment de la journée de mai, on a profité pour aller beaucoup plus loin. rappelle qu'une fois, on allait pour, avec Ning, justement, et Gorkin, je crois, à Valence, pour un meeting, à Castellón, je crois. Et on a ouvert la radio dans la voiture. Carrillo faisait un discours à Valence. Il disait tranquillement, les dirigeants du PUM, agents de Franco et de Mola. Nous, on était abasourdis, parce qu'enfin, on connaissait Carrillo très bien. On avait eu de très bonnes relations avec lui au moment qu'il était secrétaire général de Genèse socialiste. On avait discuté. Il avait demandé qu'on entre dans le Parti socialiste parce que le Parti socialiste et le Genèse allaient devenir des organisations révolutionnaires, etc. Et on entendait ce type qui disait tranquillement, le dirigeant du PUM, agent de Franco et de Mola, il l'a répété plusieurs fois dans son discours, etc. Et puis le lendemain, on voit le journal du Parti communiste à Valence, dans lequel il y avait un grand titre qui disait 90 exceptionnels, je ne l'oublierai jamais ça. On parlait hier à Castellón. Alors c'était Andrade, non, Nin, moi, Gorkin, Gironella, je crois, je ne sais pas. Enfin, le tournant soviétique, en disant l'intervention soviétique en Espagne, c'est ça qui est très important. On n'a pas assez souligné, certains historiens n'ont pas souligné, de qu'en somme, le tournant soviétique a été. Enfin, il voulait briser l'élan révolutionnaire, comme je disais, et le remplacer pour quelque chose qui se ressemble énormément à ce qu'on a fait dans tous les pays de l'Est plus tard. C'est-à-dire, en somme, l'Espagne en donnera une définition très concrète et très rapide, mais il faut la donner. Je crois qu'il a été la première tentative de créer une démocratie populaire dans le monde. La tactique consistait, bon, briser l'élan révolutionnaire, s'attaquer d'une façon ou d'une autre aux tendances qu'on ne pouvait pas assimiler ni intégrer. Le PUM, d'abord. La CNT, ensuite. La gauche socialiste, ensuite. Et puis essayer d'intégrer dans ce nouveau mouvement aux forces politiques qui étaient dociles, qui pouvaient être dociles. Surtout flatter les républicains, etc., faire des concessions à la petite bourgeoisie, etc., et créer un nouvel État dans lequel il s'est le contrôle de tout l'appareil policier, militaire, etc. Et briser, évidemment, l'organisation économique que la Révolution avait créée, les collectivisations, etc.
Voici un extrait de la lettre que Staline envoya en novembre 1936 à Largo Caballero, alors président du Conseil espagnol. Il faudrait attirer, écrit Staline, aux côtés du gouvernement, la petite et moyenne bourgeoisie urbaine, ou en tout cas lui donner le moyen de prendre une position de neutralité favorable au gouvernement, en la protégeant de toute tentative de confiscation et en lui assurant la liberté du commerce. Il ne faut pas éloigner les dirigeants des partis républicains, mais au contraire les attirer, se rapprocher d'eux et les associer à l'effort commun du gouvernement. Il est en particulier nécessaire d'assurer au gouvernement l'appui d'Azaña, c'était le président de la République, et de son groupe, et de faire tout ce qui est possible pour empêcher leur hésitation. C'est également nécessaire afin d'empêcher que les ennemis de l'Espagne ne voient en elle une république communiste, et de prévenir ainsi leur intervention ouverte qui constitue le danger le plus grave pour l'Espagne républicaine. On pourrait trouver l'occasion de déclarer dans la presse que le gouvernement d'Espagne ne tolérera pas que qui que ce soit attente à la propriété et aux intérêts légitimes des étrangers en Espagne, des citoyens des pays qui n'appuient pas les fascistes.
Largo Caballero, il faut le reconnaître, c'est l'homme qui a jeté de son bureau à l'ambassadeur soviétique en disant « le chef du gouvernement en Espagne, c'est moi ».
André Jeannine partit très vite pour Moscou après la révolution de 1917. Il y fut nommé secrétaire général adjoint de l'Internationale syndicale rouge. Au début des conflits entre Staline et la plupart des autres dirigeants bolcheviques, André Jeannine appuie les thèses de Trotsky. Après 1000 péripéties, il parvient à quitter l'URSS pour revenir en Espagne. Au début de la guerre civile, il est le secrétaire général du PUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, considéré par les staliniens comme un parti hitléro-trotskiste, alors que Jeannine et ses amis avaient rompu avec le fondateur de la 4e internationale depuis 1934. Arrêté en juin 1937, Jeannine disparaît mystérieusement. En fait, selon le témoignage de nombreux anciens dirigeants communistes, il a été arrêté par les services spéciaux soviétiques et est mort sous la torture.
Jeannine a été exclu du gouvernement de la Généralité sous la pression des soviétiques. Alors, à partir du moment qu'il a été exclu du gouvernement de la Généralité de la Catalogne, la campagne s'est intensifiée contre nous. Et puis, dans la mesure que l'armée s'organisait, à un moment donné, il était très difficile pour un militant du PUM, de la gauche socialiste ou de la CNT d'être dans une division, dans une unité militaire qui était dirigée par les communistes, parce que, enfin, on les éliminait d'une façon ou d'une autre. D'abord, évidemment, ils ne pouvaient pas avoir de poste de responsabilité, et à un moment donné, on les mettait en prison ou on les tuait. Non, c'est-à-dire, à un moment donné, on n'a pas encore de données exactes. Mais la période répressive a commencé assez tôt, surtout dans l'armée, parce qu'ils voulaient contrôler l'armée. D'abord, ils avaient créé des unités militaires spéciales, comme le 5e Régimiento, et puis toute l'aide soviétique était donnée à ces unités contrôlées par les communistes, par le Parti communiste. Et puis on essayait de s'emparer des unités militaires qui étaient commandées par des militants, même de la gauche socialiste, ne disons pas du PUM, on a dit sous sa division la plus importante, et de la CNT. Alors il s'est créé une situation très, très difficile dans l'armée.
Ignacio Iglesias, ancien dirigeant et historien du PUM, Parti ouvrier d'unification marxiste.
Le procureur de la République, dans les procès contre le PUM, il nous accusait d'agents de Franco, d'Hitler, il ne sait pas quoi, n'est-ce pas? Tandis que la sentence reconnaît que non, que nous étions des antifascistes. Il a condamné notre dirigeant parce qu'ils ont voulu faire la révolution dans la République, mais en reconnaissant qu'on était des militants antifascistes.
Ignacio Iglesias, pourriez-vous nous dire un mot sur la dureté des conflits à l'intérieur du camp républicain?
Le processus il était assez compliqué, n'est-ce pas? Assez compliqué parce qu'il y avait d'un côté l'élan révolutionnaire des forces espagnoles, et d'autre côté il y avait la politique soviétique. Il interférait dans ce mouvement, n'est-ce pas? Et la politique soviétique, qu'elle était, dans l'époque, c'était sans doute de fixer là, dans l'Espagne, un mouvement opposé au fascisme, mais sans vouloir faire une véritable révolution qui pouvait créer des problèmes avec la France démocratique, que les soviétiques voulaient aussi s'entendre avec elle, non? Alors, como Solano la très bien expliqué, pendant la première, les trois premiers mois du mouvement, de la révolution, on a collaboré, tout le monde ensemble, le monde, les communistes et tal. Et la Union soviétique, pendant ces trois mois, en effet, il a participé dans les comités de non-intervention, il a soutenu ces politiques. Tout a changé de moment que le gouvernement Largo Caballero, il a envoyé tous les réserves d'or de la République à l'Union soviétique.
À quelle date?
C'était au commencement d'octobre, du mois d'octobre de 36. À la fin d'octobre, ils sont arrivés les premières armes soviétiques, surtout pour la défense de Madrid. Avec les armes soviétiques, ils sont arrivés, la police soviétique, les militaires soviétiques, et surtout la influence soviétique sur la politique espagnole. Nin a été conseiller de la nationalité jusqu'à le mois d'octobre de 36. Dans ce mois-ci d'octobre de 36, la Pravda de Moscou a publié un article où soulignait qu'il fallait commencer à nettoyer les secteurs républicains de tous les éléments pommistes, anarchistes, etc. Jusqu'à ce moment-là, la presse communiste espagnole n'avait rien dit, ou très peu. Mais au moment que la Pravda a dado la señal déjà de alarme, por así decir, n'est-ce pas, ils ont commencé la presse soviétique déjà a commencé, etc. Et il y a eu la crise de la Généralitat qui ont provoqué les communistes, la sortie de Nin, et naturellement, à partir de là, c'était déjà une campagne, déjà, ça limite contre nous, n'est-ce pas? Demandé publiquement dans les journaux communistes, et moi j'ai là toutes les récompilations, de liquider physiquement les gens du PUM, n'est-ce pas? Comme les membres de Franco, etc. Non? Alors la situation était vraiment très, très, très difficile. Il y a eu ces journées de mai qui, en effet, comme Solano l'a souligné, ça peut être un tournant de la politique espagnole. De mai. Mais n'est rien arrivé parce que même la CNT, il était dans ce moment-là, il ne faut pas oublier, était au gouvernement central, il y avait des ministres. Alors, il y avait ces différences, c'est-à-dire les gens de la CNT de Catalogne soulevaient contre le gouvernement et les dirigeants de la CNT qui étaient dans ce même gouvernement. N'est-ce pas? Et alors, on n'a rien fait, chacun a resté sur ses positions, c'était un pays de vie politique de prendre le gouvernement de la Généralitat, de prendre le pouvoir, non? Et naturellement, les communistes ont profité très bien de ces situations.
Tout le monde sait maintenant, aujourd'hui, que la pièce maîtresse d'un procès stalinien, c'est l'aveu.
Oui.
Hein? L'aveu. Et il est probable, c'est une hypothèse qui a été maintes fois traitée, il est probable qu'on voulait un aveu de Nin et qu'on l'a torturé pour avoir un aveu comme pièce maîtresse du procès contre le PUM.
Ah, j'ai aucun doute.
Et que lui, il n'a pas parlé.
Pas de doute, il n'a pas parlé. Il a sauvé, pas seulement qu'on peut parler dans des grands mots, l'honneur, de tal. Non, il a sauvé ses camarades, les autres qui étaient emprisonnés. Et les procès, il a pris un autre tournant grâce à lui qui n'a pas parlé. Justement. Et ce qu'il a dit avant, c'est vraiment surprenant que dans sa situation physique assez déficiente, il a pu résister à ces tortures. Et sans doute à cause de ces tortures, il a disparu comme il a disparu.
Qui a ordonné la répression contre le PUM et contre les anarchistes?
Ce sont les envoyés de Moscou qui sont arrivés à Barcelone et à Madrid, qui ont fait des réunions de cadres militants. Par exemple, on m'a raconté qu'à la Pedrera, c'était un bâtiment de Gaudí au Paseo de Gracia de Barcelone, non, dans lequel le SUC, le Parti Socialiste Unifié de la Catalogne, s'était installé. On a fait une réunion dans laquelle il y avait Guéroé, qui était le représentant à ce moment-là de Moscou, qui a expliqué aux militants du SUC qu'il fallait faire machine arrière, que c'était fou, qu'il fallait en finir avec les collectivisations, avec toutes. Et les militants, j'en ai connu plusieurs qui étaient à cette réunion, mais ils ne comprenaient absolument rien, les militants communistes, parce qu'ils pensaient que ce qu'ils avaient fait avec l'ensemble des travailleurs était juste. Donc, c'était déjà un phénomène extérieur, c'était la politique stalinienne à l'époque.
L'écrivain et scénariste espagnol Jorge Semprún fut résistant en France et déporté à Buchenwald à l'âge de 19 ans. Il fut, après la guerre, dirigeant du Parti communiste espagnol clandestin. Accusé par Santiago Carrillo de déviationnisme et d'aide objective au capitalisme espagnol, il est chassé du parti en 1966.
Vrai, les dirigeants du PUM qui disent ça, ils ont raison, chronologiquement. Mais il faut s'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que l'attitude du petit parti communiste espagnol, dans les années, qui était une section du Comintern, et dirigée par le Comintern, et dirigée, comme tout le monde le sait, mais à l'époque c'était officiel, ce n'était pas quelque chose d'occulté ni de critiquable. C'était officiel. Le Parti communiste espagnol était dirigé par un Argentin qui s'appelle Codovilla, par exemple. Après, pendant la guerre, il a été dirigé très directement, au jour le jour, par Ercoli, c'est-à-dire Togliatti. Bon, Togliatti, c'est très bien, c'est clair. Mais c'est un parti qui n'avait pas le pouvoir de s'opposer ou de réprimer quoi que ce soit. Le parti qui a enfin émergé d'une vie absolument misérable et végétative où il avait 2 ou 3 000 militants dans les années 30, et enfin émergé avec la politique de Front Populaire en 36, avait un peu plus d'une dizaine de députés, une trentaine ou 25 ou 30 000 militants, et peut-être les chiffres sont un peu gonflés, et c'est un parti qui n'avait pas le pouvoir de réprimer quoi que ce soit. Et qui était bien obligé d'accepter l'extrême gauche du PUM, et avant ça, le bloc ouvrier et paysan de Catalogne, et avant ça, la gauche communiste, dans des organismes d'alliance. Dans les alliances ouvrières des années 34, il était bien obligé d'accepter cela. Bon. Une anecdote raconte, elle est certainement vraie, parce qu'elle est rapportée par des gens qui y ont assisté, que l'ambassadeur Rosenberg, le premier ambassadeur de l'URSS à Madrid en octobre 36, qui est arrivé à Madrid et qui après, ensuite, comme la plupart des conseillers et des envoyés de Staline en Espagne, a été exécuté dans les purges à partir de 37-38, Rosenberg est mort dans les purges. Quand il est arrivé à Madrid, il a vu à la réception de l'ambassadeur de l'URSS des pancartes et des drapeaux d'IPUM, avec des références et des photos de Trotsky, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Il n'a rien compris. Donc il est évident que c'est à partir de là que commence la répression. Mais ce qui commence surtout à partir de là, c'est le pouvoir du Parti communiste. C'est-à-dire qu'à partir de l'aide soviétique, à partir des armes soviétiques qui ont joué le rôle que peut jouer l'armée rouge dans les pays de l'Est européen à partir de 1945, à partir de ce pouvoir-là, le Parti communiste qui a beaucoup grandi en effectif et qui a surtout, proportionnellement aux effectifs qui n'étaient pas énormes, beaucoup, immensément grandi en influence dans tous les appareils de l'État, les appareils politiques et policiers et militaires, a pu alors se permettre la répression. Donc, c'est par la médiation du pouvoir acquis par le Parti communiste qu'a eu lieu la répression.
Le général Enrique Lister, qui commanda d'abord le 5e régiment, puis la 11e division des armées de la République, reste aujourd'hui un inconditionnel de la politique et de la stratégie soviétique pendant la guerre d'Espagne.
La Unión Soviética fue la última. Lo pensó mucho Stalin antes de decidirse. Fue la última.
L'Union soviétique fut la dernière à nous aider.
Ayudar.
Staline réfléchit beaucoup avant de se décider. Ce fut, je répète, la dernière à commencer à aider une partie de l'Espagne en lutte. En octobre, et seulement en octobre 1936, nous avons commencé à entrevoir les signes d'une certaine aide soviétique.
Los primeros en vendernos armas fueron los mexicanos.
Les premiers à nous vendre des armes, ce furent les Mexicains.
También Francia, en cumplimiento de
la France aussi,
los acuerdos
à cause des accords existants d'État à État.
Nos entregaron algunos.
La France nous livra certains des avions et certaines armes que la République espagnole avait achetées. Ensuite, la France a cessé de livrer des armes. Je répète, les premiers tanks soviétiques ne participèrent au combat que le 29 octobre.
À Cesena,
près de Madrid, sous mon commandement,
al servicio de la primera brigada del ejército popular que mandaba yo,
au service de la première brigade de l'armée populaire qui avait déjà été formée.
Lo que quería era que en España hubiera un desarrollo.
Ce que voulait l'Union soviétique, c'est qu'en Espagne, il y eut un développement démocratique. Et pas d'aventure militaire, et pas de prise du pouvoir. Et qui pouvait prendre le pouvoir? Le Parti communiste d'Espagne n'avait que 60 000 membres.
Federica Montseny, ainsi que trois autres anarchistes, entrèrent dans le gouvernement Largo Caballero. Elle explique aujourd'hui pourquoi elle et ses amis prirent cette décision en contradiction absolue avec l'idéal libertaire.
Les communistes se sont infiltrés un peu partout. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont réussi à voir ce qu'on appelait en Espagne los liberáticos, c'est-à-dire les éléments des autres partis qui, par haine des anarchistes, par peur de la révolution, comme les communistes, selon les consignes de Staline, ne voulaient pas de révolution en Espagne. À part la révolution russe, il ne devait pas y avoir une autre révolution, et surtout une révolution qui la supère, qui réalise dans la pratique des choses plus importantes que ce qu'ils avaient fait en Russie. Alors, ils ont trouvé ces libelláticos. Un était Negrín. Et à part Negrín, quelques-uns d'autres qui n'étaient pas adhérents au Parti communiste, mais qui l'ont servi au Parti communiste pour, petit à petit, s'infiltrer dans la politique. Et ça a été le complot communiste. Le complot communiste consistait en gagner, comme par exemple dans l'armée, ils ont gagné des hommes comme Cordón, comme Hidalgo de Cisneros, qui avaient quelque chose à se reprocher, qui avaient été excitants entre Franco et la République, et qui ont été pris par les nez, et qui ont accepté de servir le Parti communiste, de peur que le Parti communiste les dénonce, et qu'ils risquent la peine de mort, ou au moins la prison, ou la perte de commandement dans l'armée. Alors, c'est très compliqué tout ça. Il fallait le vivre pour s'en rendre compte et pour voir la façon d'agir des communistes. Les reproches qu'on pourrait nous faire, c'est que ceux qui voyons ça, en voyant ça, n'avons pas fini avec ce complot. Et on n'a pas fini avec ce complot parce que tout le monde était plus ou moins lié. On avait fait un front antifasciste, on avait fait un front de lutte et de combat contre les communistes, contre les fascistes. Dans ce front, il y avait les républicains, il y avait les socialistes, il y avait les anarchistes, il y avait les communistes, et on n'osait pas rompre ce front. Et les communistes ont abusé de cette loyauté qu'on a y avec eux, de notre part et de la part même des socialistes.
Casares Quiroga, président du Conseil au moment du soulèvement militaire de juillet 1936, est très vite, en peu de jours, totalement dépassé et cède la place à José Giral, républicain modéré lui aussi. Mais les ouvriers en armes ne tiennent aucun compte de ce pseudo-gouvernement qui ne gouverne rien ni personne. Aussi fait-on appel à un leader socialiste de gauche, Largo Caballero, qui réussit effectivement à asseoir une certaine autorité. Malheureusement, pour les soviétiques, qui ne voulaient absolument pas d'une révolution des signes libertaires en Espagne, Largo Caballero était trop tolérant envers les expériences autogestionnaires. Aussi a-t-on décidé son remplacement. Jesús Hernández, ancien dirigeant communiste et ministre de l'Éducation nationale pendant la guerre civile, dans son livre « La grande trahison », raconte une réunion du bureau politique du Parti communiste espagnol en mars 37, à laquelle assistaient Togliatti, Martí, Codovillas, Stepanov, le chargé d'affaires soviétique Gaïkin et Orlov, tous, à l'époque, dirigeants de l'Internationale communiste. Dans cette réunion, tumultueuse d'après l'auteur, les délégués étrangers imposèrent aux dirigeants espagnols la nécessité de destituer Largo Caballero et de le remplacer par un autre leader socialiste plus maniable. Quant au remplacement de Caballero, continua Togliatti, toujours selon Jesús Hernández, c'est un problème pratique sur lequel j'invite les camarades à réfléchir. Procédons par élimination. Prieto, Bayo, Negrín, des trois, Negrín paraît le plus indiqué pour cette succession. Il n'est pas anticommuniste comme Prieto, ni bête comme Del Bayo. Et ce fut effectivement Negrín qui fut nommé président du Conseil.
Manuel Azcárate fut pendant plus de 30 ans dirigeant du Parti communiste espagnol. Il est aujourd'hui éditorialiste au quotidien madrilène El País. Son analyse de l'intervention soviétique est sensiblement différente de celle de Lister.
Premièrement, le Parti communiste espagnol, qui est devenu un parti très fort pendant la guerre, tout de suite après, très très influent, très fort, était membre de l'Internationale communiste. Et à ce moment-là, ça voulait dire qu'il était absolument dirigé par Staline, par le gouvernement soviétique, parce que là, parler de partisans, ça ne veut pas grandir grand-chose. C'était le pouvoir soviétique, l'État soviétique. Je crois qu'il y a eu une chance, c'est que le délégué de l'Internationale communiste en Espagne a été, à partir de l'été 37, c'est-à-dire, a été Togliatti. Je crois que Togliatti était un homme vraiment d'une intelligence extraordinaire et que ça a diminué les effets négatifs. Mais il y a une question qui est centrale, c'est que à ce moment-là, 36-37, c'est l'époque des purges. Et moi, par exemple, ça, je ne l'ai absolument pas vécu à cette période-là. Ça m'a souvent frappé après de dire, mais comment, pendant la guerre, tu n'as même pas su qu'il y avait eu ces persécutions. Je pense que quand même, Donc, quand on est dans une situation de guerre, on est peut-être vraiment aliéné. Enfin, même du point de vue de l'information, ce qu'on connaît, c'est ce qui se passe là, les fronts et comme ça. Mais après, j'étais frappé parce que c'est un phénomène que c'est pendant la guerre d'Espagne, où l'international fait une politique de front populaire, etc., ouverture vers les catholiques, et tout, qu'a lieu le moment le plus noir, le plus sanglant des persécutions. Et à Moscou. Alors, Staline transfère cette politique à l'intérieur du corps républicain espagnol. Et au début de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire quand encore l'influence soviétique n'était pas imposée, il y a le gouvernement de Catalogne où sont les trotskistes. Même,
Le PUM.
Bon, mais enfin, à ce moment-là, les Trotskistes, c'était pas exactement le parti trotskiste, mais enfin, c'était une orientation comme ça. Et avec Lénine, ce qui était ministre, avec les communistes, ce qui était une monstruosité. Bon. Mais assez vite, tout ça est changé. Alors, moi, je pense que non seulement il y a eu là, disons, une orientation politique qui essayait de dire trotskiste égale fasciste, donc trotskiste égale traître, donc trotskiste. Non seulement il ne faut pas être d'accord avec lui, mais il faut le mettre en prison ou l'assassiner. Parfois, j'ai demandé à des dirigeants communistes de premier plan, parce que je travaillais à la rédaction d'une histoire de la guerre d'Espagne, j'ai posé des questions. Les réponses qu'on m'a données sont qu'ils ne le savaient pas et que ça a été une intervention directe des services secrets soviétiques. Je me réfère à l'assassinat de Nin. Bien sûr, avec des complicités. Parce qu'il y avait une partie d'Espagnols qui faisait partie de ces services. Non mmh. Le chef du gouvernement républicain, je pense que Negrín, quand il a dit que lui ne le savait pas, je pense que c'est vrai. C'est vrai, parce que les Soviétiques avaient, avec l'aide militaire, des conseillers militaires, un véritable appareil avec lequel ils pouvaient agir sur des questions comme celle-ci d'une façon tout à fait autonome, enfin, par leur propre décision.
Enrique Lister commente les propos de Azcárate sur l'assassinat de Andrés Nin par les services spéciaux soviétiques. Il dit, Azcárate est un provocateur. Car pour dire les soviétiques, il doit dire quand, qui, comment. Les soviétiques en Espagne avaient tout un appareil, un commandement, etc. Alors, si Azcárate en sait tellement, il doit dire
¿cómo, dónde, quién dio la orden?
Qui a donné l'ordre?
Porque hablar de todo eso.
Qu'a parlé de tout cela?
Alcalá de Henares, de que todas esas cosas detrás.
N'importe qui peut en parler. Mais il faut apporter des preuves.
Le 26 avril 1937, la Légion Condor, autrement dit les escadrilles de la Luftwaffe envoyées par Hitler en Espagne, écrasait Guernica, la ville sainte du peuple basque. Ce fut le premier bombardement massif de l'histoire. Une répétition sur le terrain de la Deuxième Guerre mondiale. Joseba Elosegui était officier de l'armée basque.
Moi, j'étais à Guernica les jours du bombardement. Et je suis descendu à la ville la veille pour réorganiser la compagnie que je commandais. Bon, ça a été terrible. Ça a été terrible et peut-être ça a été la première fois qu'une ville était arrasée, au tapis, comme on dit, et une ville habitée. C'est une œuvre de nazi allemand, la Légion Condor. Et Guernica n'était pas un objectif, n'avait pas un objectif militaire, mais il y avait un objectif qui était sentimental pour les Basques. c'est la ville sacrée de Basque. Et on a voulu toucher dans le cœur de Basque pour réussir la victoire du franquisme. Ça a été terrible. À ce moment-là, c'était la première ville, comme j'ai dit. Et c'était aussi terrible que la fameuse ville anglaise qui s'appelle Coventry. Mais Coventry, évidemment, c'était une ville des Anglais. Et alors, la propagande dans le monde a été plus forte pour Coventry que pour Guernica. Mais Guernica était terrible. Terrible à ce moment-là. Parce que après la guerre mondiale et tout ça, il y a eu beaucoup de villes comme Guernica. Mais c'était la première fois qu'une ville a été arrasée. Moi, j'étais pendant 3 ans et demie sur la ville. Je n'ai pas touché un refuge parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ni pour les femmes ni pour les enfants. Et nous, on est restés tout le temps. On a traité de les blessés, tout ça, mais on ne pouvait rien faire parce que le feu, qui a été le motif principal, le feu a tout brûlé. Moi, j'étais à ce moment-là à Guernica, j'étais commandant de Goudari, et c'était une ville qui, dans le temps normal, c'était de 7000 habitants, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de réfugiés qui ont venu de Guipuscoa, et on peut compter que le jour même, c'était un jour férié, et les habitants de cette ville arriveraient à 10 000 habitants. Nous, les Goudari, on n'a pas compté les morts. Et les morts ont resté au-dessous des ruines de la ville. Et on n'a pas pu compter. Celui qui a pu compter, c'était que 3 jours après, a été occupé par les franquistes. Ils sont eux qui ont donné. On n'a jamais dit combien de morts il y avait, parce qu'on se savait responsable de la destruction de la ville. Franco, qui avait autorisé le bombardement à la Légion Condor, il a eu peur des conséquences de la propagande dans le monde. Et alors, il n'a pas revendiqué le bombardement. Alors, il a dit que les gens qui ont détruit la ville, c'était les Goudari, nous-mêmes. Et il a cru que cette responsabilité lui échappait. Et même les historiens, tout de suite, ont décrit le bombardement comme un bombardement nul d'importe. De fait par la Légion Condor, mais que, tout de suite en disant que celui qui a détruit a été les Goudari, a été l'armée basque, celui qui, après le bombardement, a détruit la ville. Tout de suite après le bombardement, on a donné des nouvelles contradictoires. C'est-à-dire, les correspondants à Bilbao, on a dit la vérité, et qui a frappé tout le monde. Mais tout de suite, Franco, qui ne voulait pas, n'aimait pas cette propagande, les correspondants étrangers à Burgos, chez le quartier général de Franco, on a manifesté le contraire. Pourquoi ? Payé ? Oh, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que des gens, des correspondants, qui ont, après quelques jours après, on a passé par Guernica, on a écrit en disant que, évidemment, c'était fait par les gens avec de l'essence et je ne sais pas quoi. Mais nous, déjà, on connaît la vérité. Mais les franquistes n'ont jamais reconnu. Et les historiens de la guerre civile espagnole, du côté de Franco, ils sont toujours en disant, ils sont encore en disant que ça a été les troupes, l'armée basque qui a détruit.
Je voulais vous poser une question. Vous étiez donc sous le bombardement. Est-ce que vous avez vu les appareils allemands? Est-ce que vous avez vu les croix noires sur les appareils?
Cet élément récent, l'arrivée des avions de la région Condor, qu'encore on voyait la croix sous les ailes, on voyait la croix des Allemands, parce qu'ils n'ont pas eu même le temps de peindre avec de quitter, enlever la croix des Allemands.
Josep Tarradellas, ancien président de la Generalitat, gouvernement autonome catalan, d'abord pendant des longues années d'exil en France, puis à Barcelone en 1976, peu après la mort du général Franco.
La personne qui a eu plus d'influence dans la Catalogne, c'est Antonov. Antonov, que je connais bien, non? C'est le premier ambassadeur de l'Union soviétique en Espagne, il est venu à Catalogne. Il a resté là. Antonov, qui après, vous savez, je suppose qu'il était fusillé. Il s'est réintégré à la URSS. Et on dit souvent qu'il a été fusillé parce qu'à Barcelone, Antonov était lié de l'amitié de beaucoup de leaders du syndicalisme, non? C'est un homme que j'ai connu, un homme extraordinaire, un romantique de la Révolution, non? C'est un homme qui s'est trouvé à Barcelone comme chez lui. Alors, tous ces gens-là, tout ce qui est passé dans la rue, les touchaient profondément Antonov, et sans se rendre compte, j'espère, je crois, elle a tombé à faire une politique, pas contre la CNT ni à faveur, mais quand même d'une certaine sympathie pour la CNT, ça c'est évident. Seulement la Russie, c'est le pays qui nous a aidés. Alors naturellement, ces choses-là étaient. Le peuple de Catalogne était reconnaissant à la Russie, non? Je m'en souviens très bien à ce moment-là, au moment qu'on a commencé à arriver les bateaux de la Russie avec toutes sortes de matériaux, mais quand même, toutes sortes de limons. Hein? Barcelone était affamée et ce sont les Russes qui nous apportaient à quoi manger, non? C'est normal que les gens avaient cette sympathie, non? Mais je crois qu'au fond, la Russie, dans ces moments-là, quand est arrivé Antonov à Barcelone, c'est évident, il a été bien reçu, il a eu la sympathie de tout le monde, parce qu'avec Antonov, on a vu peut-être une façon de gagner la guerre, non? Parce qu'évidemment, après venir à Valencia, à Madrid, à Rosenberg, on arrivait à autres gens de la Russie, mais quand même, le Parti communiste, petit à petit, il a fait une unité de son parti avec les autres partis communistes du monde. Sont arrivés la Brigade internationale, tout ça a changé la face de la guerre d'Espagne.
Effectivement, les soviétiques aident la République. Ils envoient un bon matériel de guerre. Canons, chars, fusils, mitrailleuses, qui incontestablement vont permettre aux républicains de tenir jusqu'au bout à Madrid. Mais il ne s'agit pas de cadeaux. Les armes sont payées avec l'or de la République, qui part pour Odessa dès octobre 1936. Les soviétiques, en vérité, réussissent deux très bonnes affaires. D'une part, ils s'enrichissent, sous couvert de générosité. D'autre part, la reconnaissance des républicains leur permet d'imposer leur volonté, d'imposer leur politique au sein même du gouvernement Négrine. L'ambassadeur Rosenberg, le chef des services spéciaux Orlov, Stern dit Kléber, chef de la 11e brigade internationale, et d'autres soviétiques encore détiennent le pouvoir réel. Dès la fin de 1936, au nom de la thèse de la révolution en un seul pays, l'URSS, commence l'élimination des mouvements trotskistes et libertaires. Franco ne pouvait recevoir un plus beau cadeau.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. And it's there that we fought against the fascists. And we saw a peaceful valley turn to hell.
George Orwell, qui s'engagea dans une brigade du POUM en 1936, écrit dans son livre « La Catalogne libre ». Le glissement général vers la droite date à peu près d'octobre-novembre 1936, du moment où l'Union soviétique commença de fournir des armes au gouvernement et où le pouvoir commença à passer des anarchistes aux communistes. La Russie et le Mexique exceptés, aucun pays n'avait eu assez de respect humain pour venir au secours du gouvernement espagnol. Et comme le Mexique, pour des raisons évidentes, ne pouvait fournir des armes en grande quantité, les Russes étaient donc en situation de dicter leurs conditions. On ne peut guère douter qu'elles furent en substance « empêcher la révolution, ou vous n'aurez pas d'armes », et que le premier coup porté aux éléments révolutionnaires, l'éviction du poum de la généralité des Catalognes, le fut sur les ordres de l'URSS. On a nié qu'aucune pression directe ait été exercée par le gouvernement russe, mais la question est de peu d'importance, car on peut considérer comme exécuteurs de la politique russe les partis communistes de tous les pays, et l'on ne nie pas que c'est à l'instigation du parti communiste que fut menée l'action contre le PUM d'abord, puis contre les anarchistes et contre la fraction Caballero des socialistes, et en général, contre toute politique révolutionnaire.
Une guerre perdue et oubliée. 50e anniversaire de la guerre civile espagnole. 5 émissions de Carlos Semprin Mora et Philippe Guénier-Raymond. Musique originale de Francisco Semprin. Mixage Michel Mirou. Réalisation Maurice Audran.